Bonjour et merci de nous être fidèles. Tous les dimanches, le grand face-à-face de France Inter en direct et jusqu'à 14h avec au sommaire de l'émission le retour sur la semaine avec Natacha Polonier et Raphaël Glucksmann. Et dès 13h30, l'invité du grand face-à-face, il défilait hier à Paris pour faire la fête à Macron. Politologue, essayiste, co-responsable de l'école de formation de la France Insoumise, il publiait récemment Antisocial, livre qui a pour sous-titre La guerre sociale est déclarée. Rendez-vous et débat avec Thomas Guénolé dans quelques minutes.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Et le duel, Natacha Polonier, Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver, Natacha, la prof que vous avez été, dit la fête à Macron ou la fête de Macron, puisque Marlène Schiappa a ouvert la polémique sur Twitter.
Elle a reçu une petite leçon de grammaire de la part d'une linguiste sur Twitter également, qui en effet lui a rappelé à raison que le sens n'était pas le même, puisque le fait de choisir volontairement l'expression populaire « la fête à Macron » impliquait une volonté, on va dire légèrement ironique, d'attaquer le président. Et que la langue dite populaire est acceptée en linguistique, ce n'est pas une faute de grammaire, c'est un usage populaire de la langue, qui au départ est une faute de grammaire, mais qui devient un usage spécifique. Donc il ne vaut mieux pas jouer sur ce registre-là. Je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à dire sur cet événement.
Tourner son pouce 7 fois avant de tweeter.
Voilà, toujours.
Merci pour cet éclairage, Natacha. Avant de parler de la fête à Macron ou de la fête de Macron, un petit détour, tout petit détour par l'Océanie. Le président de la République terminait hier son séjour en Nouvelle-Calédonie. Un voyage à 6 mois du référendum du 4 novembre prochain sur la pleine accession à la souveraineté de ce territoire. Et le président de la République qui n'a pas l'intention de se prononcer pour ou contre l'indépendance.
Je ne prendrai pas parti dans ce référendum qui vient, pas pour me soustraire à une responsabilité, mais parce que ça n'est justement pas ma responsabilité. Ce n'est pas au chef de l'État de prendre position sur une question qui n'est posée qu'aux seuls Calédoniens. Et une telle position, d'ailleurs, ne ferait que perturber et biaiser le débat.
Le président de la République, donc, en déplacement à Nouméa, Raphaël Glucksmann.
Eh bien, c'est bien, puisque comme on va parler du bilan de Macron ensuite, et là, je suis fondamentalement d'accord avec lui. Je pense qu'il a une position juste, mesurée. Et
il n'a pas à se prononcer ?
Non, il n'a pas à se prononcer. Il est en position d'arbitre, de garant d'un processus démocratique. Et je pense qu'il adopte la juste position, sans en parler pendant des siècles, hein, puisque c'est pas une position qui évidemment fera beaucoup de débats a priori, mais c'est pour moi
enfin,
normal.
Enfin, elle en fait sur le caillou, comme on dit. Elle mais, fait débat, cette position, Natacha Polonier.
Cette position fait débat de la part de gens qui, justement, sont eux-mêmes partie prenante et qui voudraient avoir le président de la République de leur côté, alors que le président de la République, en effet, comme le disait Raphaël, doit être en position d'arbitre ou de garant du caractère démocratique de ce référendum qui soulève des questions qui sont des questions éminemment douloureuses. On est, pour le coup, sur un territoire où la position coloniale de la France existe encore. Quand l'île est tenue par 1500 familles, on a le lien entre la question sociale et la question coloniale qui pose problème, et tant qu'il n'y aura pas de véritable réforme, de véritable travail social, alors il y aura tentation de quitter la France, ce qui est normal.
Puisque vous parlez justement de cette question de la mémoire et de l'histoire, le président de la République a remis au gouvernement de Nouvelle-Calédonie l'acte de prise de possession du territoire qui date du 24 septembre 1853, sans qu'on sache bien justement ce qu'il pense de cette histoire-là. C'est intéressant parce que pour le coup, il ne s'est pas prononcé non plus sur l'histoire coloniale ou l'histoire de la relation de la France avec la Nouvelle-Calédonie. À noter quand même qu'il a dit que la France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie. Toujours question à la prof, sous-entendu la France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie, sous-entendu si la Nouvelle-Calédonie quittait la France, ou bien la France ne serait pas ce qu'elle est sans la Nouvelle-Calédonie.
Alors, justement, c'est toute l'ambiguïté de cette expression qui, entre nous, ne coûte rien.
Hein, c'est une sorte de « je vous ai compris ».
Voilà, c'est devenu d'ailleurs une phrase rhétorique utilisée dans chaque discours. La France ne serait pas la même sans les Juifs, la France ne serait pas la même sans les musulmans. On l'a entendu récemment, donc maintenant c'est la France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie. Ça permet de ne rien dire du problème qui est un problème de répartition des richesses.
On appelle ça une tautologie, c'est-à-dire que la France ne serait évidemment pas la même sans le moindre... la la plus petite parcelle de territoire qui aujourd'hui fait le territoire français. Donc la France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie. Mais je pense encore une fois que ce n'est pas son rôle de s'investir plus que cela. Là, il s'exprime en formulant une tautologie. Quand il remet l'acte de prise de possession de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, il établit un fait, enfin, il rappelle un fait historique. Il n'a pas à émettre un jugement, il rappelle un fait historique qui est que, mine de rien, ce n'est pas un référendum qui a rattaché la Nouvelle-Calédonie à la France.
Oui.
C'est un acte de rapine territoriale, comme il y en a toujours eu. Et donc, le fait est qu'aujourd'hui, c'est un progrès démocratique. Alors, on pourra parler de plein de régressions démocratiques par ailleurs, mais ça, c'est un progrès démocratique qu'on puisse, en Nouvelle-Calédonie, avoir un référendum pour savoir enfin si les gens veulent participer à un destin commun avec le reste de la France ou s'ils ne le veulent pas.
Alors à noter justement que les partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France sont donnés largement favoris par les sondages. Si vous aviez à vous prononcer, mais vous n'avez pas à le faire, Natacha, vous seriez...
Je n'ai pas à me prononcer parce que je ne suis pas justement impliquée, je ne suis pas le fruit de cette histoire, ce que sont tous ces gens sur cette île. Ça s'appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça s'appelle l'autodétermination, et il n'y a pas de véritable démocratie s'il n'y a pas adhésion, même d'une toute petite entité de territoire, à l'entité qui la dépasse. J'ai un point de vue là-dessus, mais qui, à mon avis, ne connaît pas intimement les réalités de l'île. Encore une fois, je pense que c'est par une réforme sociale véritable qu'on pourrait donner envie au peuple kanak de rester dans la République française.
Raphaël, vous avez un point de vue aussi sur la question de l'indépendance ou pas ?
Non, moi, mon point de vue, c'est sur la question de la possibilité de l'indépendance. Je suis content que la France, aujourd'hui, eh bien, donne la possibilité de choisir. Parce que la nation est un référendum quotidien et qu'il faut donc, que les gens veuillent participer à une aventure collective. C'est la fin, justement, de cette époque des actes de prise de possession d'un territoire. On n'est plus dans la rapine et on ne conserve pas son butin comme harpagon. On essaye de faire un destin commun. Et donc, pour faire un destin commun, il faut que les gens soient d'accord.
Verdict donc le 4 novembre prochain sur la pleine accession de la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Oui ou non, c'est ce que devront déterminer les électeurs. Le duel continue.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Le duel.
Avant d'accueillir Thomas Guénolet, le journal Le Monde publiait hier une grande enquête menée par le CEVIPOF, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Ipsos sur un échantillon, et il faut le noter, de 14 000 personnes, avec une enquête sur le président de la République, Emmanuel Macron, perçu de plus en plus à droite. L'étiquette de président des riches lui colle vraiment à la peau. C'est un marqueur très négatif, mais qui pourtant ne nuit pas à la popularité du président, qui reste assez solide. C'est rapidement l'une des conclusions de cette enquête. Comment expliquer ce paradoxe-là, Raphaël ?
Alors, déjà, il faut noter que c'est extrêmement rare, mais il y a 8 Français sur 10, y compris des gens qui donc vont approuver de manière générale la politique d'Emmanuel Macron, qui pensent que sa politique favorise les catégories aisées. Et seulement 15% qui pensent que ça favorise l'ensemble des Français. Et évidemment, personne ne pense, quasiment personne, que ça favorise les catégories populaires ou les classes moyennes.
Et pourtant.
Et donc, il y a réellement, c'est pas un hashtag sur Twitter, il y a réellement la perception dans la population qu'il y a un déséquilibre extrêmement profond dans la politique qui est menée. Et pourtant, si les gens avaient aujourd'hui la possibilité de voter, ils revoteraient probablement dans une proportion supérieure pour Emmanuel Macron à celle de l'élection présidentielle. Et pourtant, 45% des gens se disent globalement satisfaits par la politique. Et je pense qu'une autre partie du sondage explique cela, c'est l'infinie pauvreté de ce qui est opposé à Emmanuel Macron. Et qu'il y a un choix par défaut. C'est-à-dire que quand on prend critère par critère la politique, eh bien, les Français
c'est
sont extrêmement critiques.
L'étude.
Bah si, 14% seulement des Français pensent que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, 8% Laurent Wauquiez, 7% ou 4% Olivier Faure feraient mieux. Donc ça veut dire que de toute façon, ils regardent et ils se disent bah voilà, j'ai pas vraiment le choix, celui-là fait plutôt mieux que les autres.
Natacha.
Exactement. Là, je pense que la lecture de cette enquête doit être telle. Simplement, si on veut...
Il faut noter malgré tout que sa popularité résiste étonnamment si l'on compare la situation de ses prédécesseurs et en remontant assez loin jusqu'à Giscard d'Estaing au bout d'un an passé à l'Élysée.
Bien sûr.
45% des personnes interrogées jugent positivement l'action du chef de l'État.
Je pense que ce qui me frappe, c'est de voir qu'il est jugé très positivement sur les questions internationales et européennes. Mmh. Où là, on a eu la plus grande opération de communication. C'est-à-dire que concrètement, sur les questions européennes, il n'a rien obtenu, mais il a essayé et il a fait savoir qu'il essayait. Et du coup, c'est jugé positivement, comme s'il agissait. Alors que, alors évidemment, on a des réformes aussi qui sont plutôt appréciées, l'interdiction du glyphosate ou ce genre de choses. Voilà. Et puis, en revanche, là où on entre dans le concret, c'est-à-dire dans les décisions qui sont réellement prises, alors là, en revanche, on observe un mécontentement. Ce qui est quand même assez paradoxal, ça nous montre que pour l'instant, il y a d'abord une attente de la part des Français et surtout, il y a une difficulté à juger d'une politique qui ne donne pas ses résultats et qui joue énormément sur les effets d'annonce. Donc je pense que c'est simplement le fait d'une perception de ce que doit être un président. C'est-à-dire que ce président-là fait président et on nous le répète suffisamment puisque l'ensemble des médias ne cesse de disserter sur la question de l'autoritarisme d'Emmanuel Macron, de son incarnation du pouvoir, et lui-même ne cesse de faire cela. C'est-à-dire que sa seule réflexion sur son rôle, c'est de parler de la verticalité qu'il assume. Jamais il n'est capable de parler d'autre chose, c'est-à-dire du pouvoir pour quoi faire ? Qu'est-ce qu'il l'entend réellement faire d'ailleurs,
malgré le nombre de réformes engagées.
Mais d'ailleurs, dans cette enquête, ce que l'on voit, c'est après, par exemple, des questions du genre « Pensez-vous qu'il soit en train de réformer la France ? Êtes-vous pour les réformes ?» Quel contenu de réforme, encore une fois ? Posons-nous la question, quelle est la vision qu'Emmanuel Macron a de la France ? Or, jamais cette question-là n'est vraiment posée par les médias.
Ce qui est intéressant, juste d'un mot, Raphaël, c'est de noter que Emmanuel Macron peut se rassurer en constatant le soutien que lui conservent les Français qui l'ont élu. 70% des électeurs du premier tour, 70% des personnes qui, au premier tour, ont voté Emmanuel Macron, jugent son bilan positif, et même 56% de ceux qui ont voté pour lui au second tour, même si beaucoup l'avaient choisi pour faire barrage à Marine Le Pen.
Effectivement, il peut, quand il regarde ce sondage, et en règle générale, quand il regarde la manière dont il a réussi à faire passer ses réformes, il peut être content. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est lancer une alerte, c'est attention, décroîtra quelques jours ce dédain triomphant. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage immense entre l'approbation générale, qui est nécessairement un effet de comparaison, et l'approbation ou la qualification des réformes concrètes. Et sur un point en particulier, les électeurs qui ont voté pour lui au premier tour ou au deuxième tour, ces électeurs se définissent comme de centre-gauche. Ils sont au centre. Eh bien, lui est perçu comme étant très clairement, très nettement à droite, menant une politique qui très clairement et très nettement favorise les gens qui sont déjà les plus favorisés d'entre nous. Or là, il y a une brèche, à condition que quelque chose émerge, il y a une brèche qui peut conduire à une chute rapide de la popularité d'Emmanuel Macron.
On peut ajouter juste une chose. Il ne cesse, je le disais, de parler de sa vision du pouvoir, et ce qui émerge de sa vision de la France, c'est que la France est une puissance. Et cette façon de s'inscrire dans la lignée des rois de France, ça consiste à nous dire « la France doit rester une grande puissance ». Certes, mais quelle puissance ?
Ça devrait vous plaire, vous qui nous aviez voué la semaine dernière votre passion pour Louis XI.
Louis XI a administré la France. Louis XI se déguisait pour descendre dans Paris pour comprendre ce que voulait le peuple.
La basilique de Saint-Denis, Natacha Polony. Si vous êtes honnête, la basilique de Saint-Denis, tout ce décorum...
Et vous savez pas si Emmanuel Macron ne se déguise pas pour sortir dans la rue et observer les Français.
Ça vous plaît, au fond ?
Non, ce qui m'intéresse, c'est l'humanisme français. Or, jamais je n'entends la défense de la spécificité des modes de vie, des façons d'être au monde qu'a construit la France. Et c'est ça que j'attends.
France Inter, il est 13h30. Le grand face-à-face continue maintenant avec le débat.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Notre invité ce dimanche, il défilait hier à Paris pour faire la fête à Macron. Intellectuel, engagé à gauche, politologue, essayiste, co-responsable de l'école de formation de la France Insoumise, il publiait récemment Antisocial chez Plon, livre qui a pour sous-titre La guerre sociale est déclarée. Bonjour Thomas Guénolé.
Bonjour.
Et bienvenue, vous étiez donc hier dans la rue. Ce qui est assez frappant, c'est de voir à quel point dans votre livre on trouve des questions, des analyses qui résonnent avec l'actualité la plus chaude et ce qu'on vit aujourd'hui. D'un mot, hier, vous étiez dans la rue pour faire la fête à Macron, et pourtant vous décrivez une guerre sociale. Il y a un paradoxe entre les deux ou pas du tout ?
Non, pas du tout, parce qu'il y a différentes modalités d'engagement politique et de lutte politique, et ce n'est pas parce qu'on est dans une conflictualité sur qu'est-ce qu'il faut faire de l'avenir de notre pays qu'il faut nécessairement sortir les fourches ou poser des bombes. Il y a toute une gamme disponible entre, par exemple, ne rien faire, être vraiment dans l'apathie, sans mauvais jeu de mots, la plus totale, et puis, tout à l'autre bout, être dans la radicalité et même carrément, pour le coup, dans la violence. Il y a tout un tas d'étapes intermédiaires. Et par exemple, le 5 mai, on a eu, je pense qu'on peut le dire, un très très gros succès, à la fois sur la masse, parce qu'on était vraiment nombreux, et parce que l'ambiance générale était une réussite. C'est-à-dire quelque chose de festif, quelque chose de sympa, quelque chose de bon enfant. L'idée que les gens pouvaient venir avec leurs poussettes, bah, c'est vrai, et on les a vus, donc ça, on était contents. Et puis, une certaine convergence des cortèges. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie diversité, il y avait une diversité politique, une diversité des luttes représentées, même s'il en manque, on pourra y revenir. Dans le cortège, je suis content si on peut en parler. Et une convergence politico-syndicale, en plus, si vous voulez. En grande partie des syndiqués, pas des syndicats, entendez-moi bien, mais quand même. Et tout ça, donc, sous un soleil magnifique, même si je dois vous confier, ce n'est pas un scoop particulièrement intéressant, que j'ai pris un gros coup de soleil, moi. Donc, pour la prochaine, le 26...
On peut en témoigner.
Voilà.
Le 26 mai.
Je confirme.
Voilà. Vous espérez qu'il pleuvra.
Pour la prochaine...
Et le coup de soleil et le pins, France pas Insoumise.
Ouais. Absolument. Donc, la prochaine, le 26 mai, de mémoire...
Sortez la crème
n'oubliez
solaire.
N'oubliez pas les casquettes, les bobs, etc. Protégez votre cuir chevelu, surtout si vous n'avez plus de cheveux, comme c'est mon cas. Et je ne suis pas seul ici.
Alors, il y en a un qui a toujours ses cheveux, c'est Jean-Luc Mélenchon, et voici ce qu'il déclarait hier, justement, au moment de ce défilé.
Non, monsieur le président, il est inutile d'espérer que parce que vous avez gagné une élection, dans des conditions qui finalement maintenant prêtent à discussion, la démocratie s'interrompt en France pour se consacrer à chanter vos louanges. Le peuple français est d'abord un peuple rebelle, que nul ne mate. N'écoutez personne qui vous dise de baisser les yeux. Allez, marchez votre chemin à la tête haute. Et le 26 mai, par millions, déferlez. Soyez la marée humaine qui change l'histoire, la glorieuse histoire que le peuple a commencée il y a 227 ans. Avec la révolution qui a ouvert l'ère moderne, le moment est venu de commencer la suivante.
Une nouvelle révolution, donc, qu'appelait de ses voeux Jean-Luc Mélenchon, comparable à la révolution française. Hier, Thomas Guénolé, vous déclariez après la manif que c'était bien de manifester, c'était bien de se retrouver dans la rue, de faire nombre et de défiler, mais que les révolutions, justement, et dans l'histoire de France, on en a de nombreux exemples, les révolutions, ça passe par les grèves, les transformations, ça passe par les occupations d'usines, par vraiment, ailleurs que
faut distinguer donc les révolutions et les mouvements sociaux victorieux. Ce sont deux sujets différents, même si parfois le mouvement social victorieux est une révolution. Mais ça se recoupe pas forcément, si on est rigoureux. Et donc, effectivement, dans le bouquin, il y a tout un passage, tout un chapitre où je reviens sur les conditions de réussite des mouvements sociaux et en examinant donc ceux qui ont gagné au XXe siècle. Dans quel cas les grandes mobilisations sociales obtiennent des conquêtes sociales vraiment... D'abord, ils gagnent, ce qui est quand même rare, ils gagnent vraiment. Et deux, ils gagnent vraiment des conquêtes spectaculaires. On est en train de célébrer, en partie par un revival d'ailleurs, les 50 ans de mai 68. Mai 68, je voudrais quand même rappeler que ce n'est pas seulement des étudiants qui voulaient baiser en liberté dans les dortoirs des filles, c'est quand même aussi une augmentation de plus d'un tiers du salaire minimum après une grève générale de plus de 10 millions de salariés. Et donc, ce qui est frappant...
Inédite et qui ne s'est pas reproduite depuis.
Ce n'est pas vrai. 1919.
Enfin non, depuis 1968, il n'y a eu aucun mouvement social.
1995, ça ne vous dit rien?
C'est pas comparable à 1968, il n'y a pas eu un Grenelle comme au moment de 68, et il n'y a pas eu d'avancée sociale comme en 1968.
Il n'y a pas eu de conquête sociale. C'est la spécificité de 1995, c'est qu'on revient à quelque chose comme celle de 52-53, qui est d'être une grève défensive, une grève de blocage défensif. Mais 1919, 1936, 1900, donc 52-53, 1968, 1995, vous avez des exemples, ceux qui marchent, dans le rapport de force, si on est sur les mouvements sociaux, ce qui marche concrètement, ce sont les grèves de blocage de l'économie. Parce que, pour une raison très simple, pour les gens qui nous écoutent, c'est très simple. Si le gouvernement décide d'arrêter de bosser, c'est pas grave, on peut changer de gouvernement, c'est pas les volontaires qui manquent. Mais si nous sommes suffisamment nombreux à décider d'être en blocage de l'économie, je parle pas du fait qu'on s'arrête tous, je parle du fait qu'à un moment donné, les trains ne marchent pas, l'essence manque, un certain nombre de secteurs de l'activité économique comme en 36 s'arrêtent, eh bien il faut renégocier les conditions auxquelles nous sommes prêts à retourner au boulot parce que on peut pas changer de peuple. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et donc ce qui est intéressant et sain dans les grands mouvements sociaux, c'est que quand ils sont jusqu'aux grèves de blocage, arrive sur la table le vrai prix du travail.
Les manifs ne sont pas.
Vous avez noté que j'ai pas dit le coût.
On va y venir.
Deux remarques. La première, c'est que si vous dites on ne peut pas changer de peuple, j'adorerais. Hélas, dans les conditions actuelles de l'ouverture des marchés, la libre circulation des hommes et des capitaux, eh bien, les puissances d'argent ont trouvé une façon merveilleuse de changer de peuple. Ça s'appelle les délocalisations. Mmh. Et ça permet justement, quand on est enquiquiné par des revendications salariales, d'aller voir ailleurs et de faire baisser mécaniquement les salaires. C'est la première chose contre laquelle justement il est très difficile de lutter, et c'est pour ça que 1995 devient une grève défensive, parce que on entre dans une ère de rognage systématique de tous les droits. Et deuxième petite remarque, mouvement social contre révolution. La question aujourd'hui est de savoir si nous sommes dans la reconstitution d'une oligarchie qui nécessite une révolution et non plus seulement un mouvement social de conquête de droits.
Thomas Guenelet.
Alors, première chose, donc sur la circulation illimitée, puisque c'est ça donc votre objection, j'ai du mal à la considérer comme une objection parce que je suis d'accord avec vous. Donc ça va être simple. Il y a dans les traités de l'Union européenne un certain nombre de politiques économiques obligatoires, parmi lesquelles la circulation illimitée des travailleurs, des biens, des marchandises, des capitaux, la libre installation n'importe où dans l'Union européenne des entreprises et la liberté pour les entreprises de facturer leurs services de n'importe où vers n'importe où. Or, dans le même temps, pour les gens qui nous écoutent, il y en a plein qui apparemment, je m'en rends compte à force, qui ne le savent pas. C'est que les mêmes traités européens interdisent d'utiliser les mécanismes européens pour faire de l'harmonisation sociale. C'est interdit, c'est explicitement interdit dans les traités. Et l'harmonisation fiscale n'est autorisée, je veux pas être trop technique, mais l'harmonisation fiscale n'est autorisée que si c'est pour favoriser davantage de concurrence. C'est marqué noir sur blanc comme ça. Oui. Et donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, puisque vous êtes condamné à avoir des niveaux différents de protection sociale et des niveaux différents de fiscalité, et que simultanément, vous avez cette circulation illimitée de tous les facteurs de production, y compris donc les humains. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un mouvement général de dumping social, c'est-à-dire de nivellement par le bas. Je rappelle que notre problème de délocalisation, on parle
mais là,
beaucoup
vous ne répondez pas, Natacha.
Mais si, je réponds.
Parce
je
que
suis
vous disiez,
en train de répondre.
On ne peut pas changer de peuple. Natacha, vous disiez si, la preuve,
non,
ça s'appelle la délocalisation.
Non, c'est pas un changement de peuple. C'est un problème de concurrence déloyale favorisé par les traités européens.
Mais du coup, ça limite la possibilité pour le mouvement social de se faire entendre.
Mais nous sommes cohérents là-dessus. C'est que, et ça aussi, dans le bouquin, il y a à la fois un chapitre entier sur les conditions de réussite des mouvements sociaux, et puis il y a aussi, dans l'épilogue, l'idée que les mouvements sociaux ne peuvent pas suffire et qu'il faut un mouvement politique qui puisse conquérir le pouvoir par les urnes. Et donc, dans ce que doit faire ce mouvement politique, en l'occurrence la France insoumise, puisque bon, mon engagement est connu, dans ce qu'ils doivent faire, il y a le fait d'obtenir qu'il n'y ait plus des politiques économiques obligatoires dans les traités européens, parce que les gens réalisent bien, on peut être pour l'Europe de Victor Hugo, c'est mon cas, l'Europe de la fraternité des peuples. Mais quel est le rapport entre la fraternité des peuples et le fait de rendre obligatoire dans des traités européens le nivellement par le bas des salaires, des protections sociales, etc., qu'induit automatiquement la course au dumping que je viens de vous décrire. Et donc, il faut changer ces règles-là, et ça se fait par le mouvement politique, et donc,
d'où on en vient à la deuxième question, la révolution ou le mouvement social ?
La révolution par les urnes est nécessaire, inévitablement, en plus des mouvements sociaux. Les mouvements sociaux n'y suffisent pas. Mais j'insiste, vous avez bien la révolution, c'est-à-dire au sens strict, il y a des gens qui ont peur du mot révolution. Je rappelle que Emmanuel Macron a écrit un bouquin qui s'appelle Révolution. Donc après tout, ça devrait pas faire peur. Et donc, c'est une révolution par les urnes, c'est-à-dire une révolution pacifique. Il y a beaucoup de grands changements politiques qui peuvent être obtenus simplement par un changement de système par les urnes. Ça s'est produit à plusieurs reprises, y compris en Europe, y compris récemment. Voilà, donc en résumé.
La grande différence avec des mouvements comme 68 ou 36, c'est que l'horizon de progrès était commun à ces mouvements. C'est-à-dire qu'en 36, on pense qu'il y a enfin un gouvernement ami qui est là, et donc on faut faire pression sur le gouvernement.
Vous avez noté qu'il a fallu faire pression, alors que c'était un gouvernement.
Bien sûr. Et donc il a fallu les occupations d'usines pour qu'ensuite Blum puisse négocier avec le patronat.
Je suis content que vous le rappeliez que c'est effectivement les grandes grèves de 36 et non pas la victoire électorale.
Mais Blum n'y était pas hostile. Hein. Il savait que c'était un argument pour négocier avec le patronat.
Pardonnez-moi, j'ai un désaccord.
C'est passionnant, mais
je peux continuer sur le progrès.
Excusez-moi, non, mais c'est important parce que le gouvernement de Léon Blum ensuite a reculé. Donc l'idée qu'il voyait ça d'un bon œil est discutable, historiquement. Mais bon.
Ok. Très bien. Si vous voulez qu'on parle de 36, on le fera à la machine à café après. Non, mais juste aujourd'hui, le problème, c'est qu'effectivement, tous ces mouvements sont sont des mouvements défensifs. Parce que la vague, elle est du côté néolibéral et que la perception des gens, c'est qu'on n'est pas en train de conquérir de nouveaux droits, mais qu'on est en train de perdre ce qu'on a déjà. Et donc, là, pour moi, le problème, c'est que, à mon avis, le calcul d'Emmanuel Macron, c'est qu'il va vouloir des manifestations défensives, dire que face à lui, il y a la rue, et il va gagner les prochaines élections en assumant, comme cela, qu'il n'y a qu'une partie de ping-pong entre lui et la rue. Et que donc, tout l'enjeu, c'est de faire émerger une alternative crédible à ces mouvements, à ces réformes néolibérales.
On s'en occupe, hein, on y bosse. C'est-à-dire que vous avez des mouvements sociaux, je vous l'accorde bien volontiers, qui sont défensifs, c'est vrai. Je préférerais, on est assez nombreux hein, à penser ça et à le dire, qu'il faudrait que les mouvements sociaux non seulement soient défensifs par rapport à notre modèle social, par rapport à nos protections sociales, par rapport à nos services publics, mais qu'il faudrait en plus recommencer à proposer d'aller plus loin dans les conquêtes sociales, par exemple la semaine de 32 heures, pour ne citer qu'un exemple. Par exemple, la véritable égalité salariale homme-femme et non pas l'égalité théorique. Il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait mettre en avant comme étant, non seulement on défend, mais on veut des choses en plus. Ce qui était le cas, on citait mai 68, on va le reciter, on va se faire plaisir. Il y avait ça aussi au niveau des conquêtes sociales obtenues par le mouvement de mai 68 à l'issue de la grande grève de blocage.
Comparaison n'est pas raison, mais vous avez le sentiment qu'on est en train de revivre quelque chose. Vous parliez de revival tout à l'heure, pour vous citer.
Alors, il est clair qu'il y a, il est clair qu'il y a une redite d'un certain mécanisme, c'est-à-dire on constate une accumulation de blocage des facs. On constate aussi que les facs se font évacuer à un moment donné, ce qui était aussi le cas en mai 68, je voudrais le rappeler. Hein. On constate aussi un certain nombre de mouvements sociaux, qui sont des mouvements sociaux plus syndicaux pour le coup. Et donc, il y a un mécanisme, mais on parle quand même à 50 ans d'écart, et donc dire qu'on est en train de le répéter la chose, non, et par définition, ça n'aura pas la même conclusion, c'est absolument évident. Mais savoir quelle sera la conclusion de ce mouvement, moi je ne suis d'accord ni avec ceux qui disent attention, voilà, il va se passer ça, et puis ça va gagner pour telle et telle raison, et puis ceux qui disent, les Cassandres, qui disent non mais tout est foutu, ça sert à rien. Moi j'assume de vous dire, je ne sais pas quelle va être la conclusion de ce grand mouvement social. Et pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur Glucksmann, sur le fait d'être offensif et non pas seulement défensif, il y a aussi le travail du mouvement politique pour ça, c'est-à-dire que le mouvement politique La France Insoumise, si nous gagnons, il y aura, de manière pacifique, de manière raisonnable, de manière organisée, il y aura un changement de système économique et social. C'est clair, et donc, pour le coup, là, on a quelque chose qui n'est pas seulement défensif. Mais bon, ça suppose de voter pour nous.
Natacha,
je vous invite. Pour qu'il y ait adhésion et qu'il y ait révolution...
Les prochaines échéances électorales, elles sont lointaines encore.
Non, la prochaine, c'est l'année prochaine.
Pour qu'il y ait véritablement une révolution pacifique par les urnes, il faut qu'il y ait adhésion d'un très grand nombre de corps sociaux qui ne sont pas forcément ceux que vous décrivez à la base. C'est-à-dire que ce n'est pas le noyau dur d'étudiants qui réclament absolument l'absence de toute sélection à la fac qui va servir, à emmener tous ceux qui vont permettre une révolution. Dans l'histoire des révolutions en France, c'est parce que vous avez une association, une alliance de la bourgeoisie, des paysans, des ouvriers, que vous pouvez justement faire basculer les choses. Donc là, le problème, c'est de faire basculer, c'est d'adhérer tous ceux qui, pour l'instant, n'entrent pas dans votre mouvement, c'est-à-dire les indépendants, les petits commerçants, les paysans. Et pourquoi n'y entrent-ils pas? Peut-être parce qu'il y a un problème de cohérence dans votre mouvement et le maintien d'une certaine ambiguïté sur certains domaines qui sont toutes les questions plus large que celle du mouvement social et du mouvement du système économique, et qui sont toutes les questions, j'allais dire, culturelles au sens large, celles qui concernent le mode de vie, celles qui concernent la vision que l'on peut avoir d'une organisation, d'une communauté politique. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très frappant de voir que aujourd'hui ressurgit dans chaque mouvement social l'idée, par exemple, de manifestations ou de conférences non mixtes, en non mixité raciale ou des choses comme ça, qui induisent quelque chose dont je doute que ça puisse permettre d'organiser une révolution majoritaire par les urnes.
Thomas Guénolé.
Alors, nous avons dit et répété, par exemple, Jean-Luc Mélenchon l'avait dit lors de son grand discours de notre convention nationale. Et ça faisait suite à des tracasseries avec des groupuscules qui ne représentent qu'eux-mêmes en réalité, des gens comme les... je vais même pas les citer d'ailleurs, je veux pas leur faire de publicité à ces gens-là, qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui prétendent parler des banlieues mais qui en réalité ne parlent pas des banlieues, puisqu'assez rapidement ils viennent dans la défense de choses qui sont fondamentalement contraires non seulement aux valeurs républicaines mais aux notions les plus élémentaires de démocratie et d'égalité homme-femme. Et donc... Dans ce contexte-là, il y avait eu un moment dans le discours de Jean-Luc à la Convention nationale de la France insoumise qui était de dire « Nous ne connaissons qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale ». Je pense qu'on peut difficilement être plus clair. Par ailleurs, il y avait eu une lettre, alors je crois que c'est un responsable de la LICRA qui avait demandé par écrit à Jean-Luc Mélenchon sa position sur les mêmes groupuscules auxquels délibérément je ne fais pas de publicité aujourd'hui, et qui était de dire ceux-là ce sont quand même des antisémites, c'est le cas, et quelle est votre position sur ces choses-là? Et lui, la réponse de Jean-Luc Mélenchon a été tout ce qui est communautarisme, tout ce qui est antisémitisme, c'est non. Encore une fois, on ne peut pas être plus clair. Et ensuite, sur l'idée de construction d'une majorité large, populaire, qui donc doit inclure nécessairement davantage. On en a déjà en grande partie, hein, mais on doit inclure davantage des
qui manquait à l'appel d'ailleurs.
Attendez juste, excusez-moi,
je voudrais, Macron, parce que vous vouliez en
voilà,
parler.
Je voudrais simplement sur le raisonnement. L'idée que nous définissons comme étant le populisme de gauche, c'est-à-dire Chantal Mouffe, etc., c'est l'idée de transformer une multitude d'individus épars et avec chacun des intérêts catégoriels en un peuple conscientisé et d'accord ensemble sur un projet de transformation du système. On est dans cette idée-là. Et vous remarquerez que ça commence à prendre puisque la singularité de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon par rapport à celui de tous les autres au premier tour de la présidentielle, c'est que, à part les 15-20% les plus riches de la population, je vous l'accorde, toutes les autres catégories, il est substantiellement présent dans ces différentes catégories. Pas forcément en tête, mais substantiellement présent. C'est-à-dire que l'idée d'un électorat qui est de facto un front populaire est en train de se réaliser dans les urnes.
Je crois que ça a marché à la présidentielle. Est-ce qu'un an après, c'est toujours présent, c'est la question que je me pose.
Comme c'est une question qui est assez profonde, je suis désolé, je suis obligé de serrer le truc. Et donc, nous nous efforçons de convaincre, d'expliquer patiemment. Et avec sincérité sur notre programme. Et d'ailleurs, j'appelle les journalistes qui nous écoutent à nous poser davantage de questions sur notre programme. Nous, on est demandeurs. Interrogez-nous sur notre programme, par pitié. On a plein de choses à raconter. Je citais tout à l'heure la semaine de 32 heures, mais il y a plein d'autres choses. Et donc, nous sommes dans cette démarche de construction. Ça prend du temps. Nous pensons que nous allons y arriver. Et sur les idées, sur les groupuscules que vous citez, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'ils ne pèsent qu'eux-mêmes. Et nos positions là-dessus sont, on ne peut plus clair. On l'a dit et répété. Des gens... et c'est leur droit, peuvent vouloir revenir dessus. Mais vous aviez posé une question et je n'ai pas répondu et je ne veux pas faire ça.
Qui manquait à l'appel ?
Sur la question des quartiers populaires.
Non, c'était justement
la
question.
Oui, sur ce qui manquait, voilà, sur les mouvements, sur les différents mouvements, cortèges, etc.
Qui manquait hier à l'appel de la fête.
C'est pas qui manquait, parce qu'il y a le collectif Justice pour Adama qui était présent dans une partie de la mobilisation du 5 mai. Cependant, il y a depuis des années un lâcher-prise des mouvements politiques et sociaux en grande partie sur le fait d'être non pas dans une espèce d'activité missionnaire paternaliste condescendante qui est super malsaine, mais d'être vraiment dans une interaction, dans une réciprocité, dans un travail commun avec les populations des quartiers populaires. Et là-dessus, une singularité de la France insoumise, c'est que nous travaillons beaucoup, déjà pendant la campagne présidentielle et déjà encore avant, sur le fait de retravailler politiquement et socialement avec les quartiers populaires. J'insiste, pas sur les quartiers populaires, avec les quartiers populaires, notamment sur les questions de droits civiques, de droits sociaux. On a fait récemment un tutoriel de l'école de la France Insoumise, par exemple, c'était sur le fait d'interagir sur les questions de faire valoir ses droits au logement, parce que beaucoup de gens n'ont pas nécessairement les différents outils alors qu'ils ont des droits. Et donc, c'est le fait de travailler avec des collectifs aussi. Donc, on a inventé ce travail-là avec comme principal obstacle le fait que toute une partie, pas la majorité, mais toute une partie de la population des quartiers populaires est en état, la sociologie appelle ça, de désocialisation. C'est-à-dire qu'on ne sait plus. Bon. Il y a une vraie difficulté sur les portes d'entrée, des cellules familiales dysfonctionnelles, etc., etc. Tout ça étant des conséquences en réalité du surchômage qui frappe ces populations-là. Et il y en a toute une partie, quand des gens vous disent « il n'y a qu'à Faucon », vis-à-vis des quartiers populaires, c'est une négation d'une réalité sociologique très grave et très profonde, qui est qu'il y a toute une partie de la population qui est désocialisée, oui, vis-à-vis de laquelle on ne sait pas comment.
Vous avez réussi à une prouesse, c'est d'être l'interlocuteur qui parle le plus longtemps sans interruption depuis le début de l'émission.
Mais interrompez-moi, c'est votre patron ici, c'est pas moi.
Je suis bien trop courtois. Le problème, je pense, moi, dans votre mouvement, dans la France insoumise, c'est que vous avez exactement le phénomène symétrique du macronisme. C'est-à-dire que vous avez un leader qui est un leader tout puissant au sein de votre mouvement, qui est dans l'incarnation d'un pouvoir vertical et qui, par conséquent, s'interdit de construire des coalitions de manière novatrice et horizontale avec beaucoup de gens qui sont sensibles à une partie de votre programme, qui sont sensibles au rejet des politiques mises en place, mais qui sont exclus par une forme de césarisme qui empêche de fédérer des forces différentes. Or, on a parlé tout à l'heure du sondage du CVPOF, qui, moi, je pense, est plus inquiétant pour Emmanuel Macron qu'il ne le semble. Il y a une chose qui sort de manière très claire de ce sondage, et qui est un sondage mené sur 13 000 personnes, donc il est plus fiable que les autres, c'est que les autres figures de l'opposition, dont Jean-Luc Mélenchon, sont extrêmement clivantes et jugées comme repoussoires. Et donc, là, il y a une limite, en fait, au mouvement de contestation, s'il s'incarne dans un seul mouvement ou une seule personne. Et là-dessus, je pense que le fonctionnement même de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, risque de conduire la contestation au fiasco.
Alors, Thomas Guénolet, plusieurs choses. D'abord, il y a une façon, c'est pas contre vous en particulier, mais il y a une façon de fantasmer le fonctionnement de la France insoumise, la façon dont nous travaillons, qui est qu'on est une espèce d'armée avec une colonne ultra verticale dans laquelle tous les matins Jean-Luc Mélenchon va prendre à peu près 2000 décisions du plus macro jusqu'au plus micro détail, et nous sommes tous donc dans la chaîne des exécutants bornés, robotisés, etc., etc. C'est pas comme ça que ça marche. La façon de fonctionner de Jean-Luc Mélenchon, je peux en témoigner, puisque je m'occupe de l'école de formation de la France Insoumise.
Justement, j'aimerais bien que vous nous décriviez ce qui s'y passe.
Je signale juste l'idée, il y a une espèce de pouvoir tutélaire écrasant, etc. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que, à partir du moment où vous êtes...
Vous avez des mouvements de contestation interne, vous avez des débats qui viennent sur la place publique, qui remettent en cause la parole de Jean-Luc Mélenchon.
Il y a des discussions sur le fait de... Par exemple, il y a des discussions récemment à l'Assemblée représentative, qu'est-ce qu'on fait au niveau de notre stratégie, quelles sont nos priorités pour la campagne des européennes. Mais effectivement, nous avons des discussions, nous avons des délibérations, ça ressemble beaucoup en fait à quelque chose qui est plus la démocratie délibérative, des choses à la Habermas, plutôt qu'on tranche au trébuchet des courants et des motions où les gens se poussent du col. On ne fonctionne pas comme ça, c'est vrai. Donc, Jean-Luc, c'est quelqu'un qui a une autorité sur le mouvement, au sens étymologique, auctoritas, j'insiste là-dessus. C'est pas une caserne, ça n'est pas vrai. Je peux en témoigner. Je travaille dans ce mouvement. Ensuite, brièvement sur la question de la coalition.
Il y a des sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec lui.
Je voudrais juste faire brièvement sur l'idée de coalition en deux mots. J'ai déjà répondu à Natacha Polony tout à l'heure sur le fait que notre stratégie c'est l'union du peuple et non pas l'union des étiquettes de parti. Nous pensons que ça ne fonctionne pas et que ça ne fonctionne plus. Et sur l'idée d'être clivant ou pas, en réalité, là-dessus, j'ai un désaccord d'analyse avec vous. Mm-hmm. C'est-à-dire, je pense que au travers des personnalités qui sont évalués dans les sondages, en réalité, c'est la population française elle-même qui est ultra clivée, grosso modo, en quatre grands blocs qui ont de plus en plus de mal à se parler. Oui. Et d'ailleurs, je crois savoir que nous sommes d'accord avec Natacha Polony.
Oui, sûr,
on en a déjà discuté.
Vous êtes d'accord sur plein de trucs.
Je suis d'accord avec vous sur d'autres sujets. Par exemple, sur les questions des droits des réfugiés, je sais qu'on a des convergences. Vous voyez, c'est pas la guerre civile.
C'est
la guerre sociale.
En revanche,
la guerre sociale est déclarée,
pour en revenir à cette notion fondamentale de populisme de gauche, on ne peut justement associer l'ensemble du peuple qu'en analysant correctement la façon dont il est attaqué de toutes parts, quelles sont ses souffrances, quels sont, selon vous, les facteurs de déstabilisation. Parce qu'on comprend bien la dimension économique et la dimension sociale de ces facteurs de déstabilisation, mais en revanche, on vous entend toujours assez peu sur la façon dont cette déstabilisation économique, et je pense que ça se joue dans ce sens-là, la façon dont la déstabilisation économique par le néolibéralisme est en train de détruire ensuite l'ensemble des socles culturels du pays. La façon, d'abord par la destruction des lieux de sociabilité, ensuite par la destruction des modes de vie, et tout ça provoque une insécurité culturelle qui ensuite se traduit par un refus de l'immigration, parfois par une colère beaucoup plus diffuse. Comment vous répondez à cette dimension-là de la question culturelle ?
Thomas Guénolé, il nous reste une poignée de minutes, donc des réponses concises, des questions concises.
Oui, d'accord. Donc d'abord, sur ces questions-là, nous considérons effectivement que les phénomènes de désocialisation que je mentionnais tout à l'heure, dont le fait d'être dans le rejet absolu de toute forme d'immigration, est un des symptômes possibles d'ailleurs. Ce sont des conséquences effectivement du rouleau compresseur économique et social. Donc là-dessus, pour vous répondre brièvement, nous pensons qu'il y a un lien. Voilà. Ensuite, sur la question de... parce que vous aviez une question précédente à laquelle je n'ai pas répondu, qui est l'école de la France insoumise. Donc, à quoi ça sert en deux mots ?
Former les militants ?
Alors, ça sert...
Qu'est-ce qu'on y enseigne ?
Voilà, il y a plusieurs choses. Il y a un, exposer aux militants sur les différents grands thèmes d'enjeux politiques, le diagnostic sur la situation, documenté, sourcé, c'est pas de l'accumulation de slogans, c'est des trucs rigoureux, bibliographie, etc. C'est des cours. Deux, les projets, les idées, les réformes de l'adversaire. Et pourquoi nous sommes en désaccord avec ça ? On expose nos arguments sur la table et les sources, les documentations, les éléments qui nous font, nous, arriver à la conclusion que c'est pas la bonne direction pour le pays et pour les gens. Et trois, qu'est-ce que nous, on ferait si c'était nous aux commandes ? Ce qui permet ensuite, derrière, aux militants de s'approprier véritablement les éléments de réflexion, et ça leur permet de reconstituer le raisonnement par eux-mêmes et aussi de voir s'ils sont éventuellement s'ils ont éventuellement des désaccords.
Il reste
ensuite,
deux minutes,
hein. Il y a des tutoriels qui sont sur le savoir-faire artisanal militant. Et puis il y a une dimension aussi d'éducation populaire politique, c'est-à-dire que on renoue avec une tradition qui avait été lancée, qui était les universités populaires de la fin du 19e siècle à la suite de l'affaire Dreyfus, qui était finalement de lancer des espaces d'éducation populaire politique pour finalement, pour tous ceux qui ne seraient pas forcément des nôtres, mais que ces contenus-là intéressent simplement par ouverture d'esprit ou par curiosité. C'est la raison pour laquelle tous nos contenus sont en accès libre.
Et l'esprit critique, est-ce que vous avez des débats ? Est-ce que vous avez des oppositions ? Parce que moi, j'ai lu votre programme, contrairement à beaucoup de gens qui vous critiquent. Et
je dois vous avouer. Je vous en remercie.
Non, mais je suis d'accord avec plein de positions.
Je sais qu'on a des convergences.
Mais mon problème, c'est que je vous pose une question. Avec quoi vous êtes en désaccord avec la ligne de Jean-Luc Mélenchon ? Parce que dans tout parti, dans tout mouvement, il y a forcément des désaccords. Et le problème, c'est que ces nouveaux mouvements qui ont émergé, eh bien, au lieu d'être beaucoup plus horizontaux et divers, me semble, moi, beaucoup plus fusionnel autour de la figure du chef qu'avant.
Thomas Guénolé.
Moi, vous savez, je suis un très mauvais exemple parce que je suis arrivé à la France Insoumise après avoir écrit un livre qui s'appelle La mondialisation malheureuse. Et postérieurement à ça, j'ai lu L'ère du peuple de Jean-Luc Mélenchon. Et si vous vous amusez à lire les deux bouquins, vous avez l'impression que l'un est la version courte de l'autre ou réciproquement sur la version longue. C'est-à-dire que nous sommes arrivés dans l'ordre intellectuel et politique, nous sommes arrivés séparément sans nous concerter aux mêmes conclusions fondamentales. Donc effectivement, si c'est à moi que vous demandez, est-ce que vous avez des points de désaccord importants ? On est arrivés séparément aux mêmes conclusions idéologiques.
Vous n'avez pas répondu à ma question sur la dimension culturelle qui est fondamentale. Qu'est-ce qu'un peuple ?
C'est une communauté de destin sur des valeurs en l'occurrence et sur un projet politique.
Et sur une histoire peut-être.
Car les valeurs républicaines. Bien sûr, mais
par l'intégration, c'est ma question.
Les valeurs politiques communes et surtout le projet politique commun, car le républicanisme est un projet politique d'émancipation humaniste. Vous citiez l'humanisme tout à l'heure.
Il faudra que vous reveniez pour reprendre le débat parce que malheureusement la discussion est très loin d'être terminée, mais on est obligé de rendre l'antenne.
C'était dense. Hein.
C'était dense, mais intéressant. Merci Thomas Guénolé d'avoir été notre invité. Antisocial, la guerre sociale est déclarée, c'est publié chez Plomb. Natacha, Raphaël, je vous retrouve dimanche prochain. Merci à Ophélie Vivier, à la réalisation Marion Lelay, à la technique Antoine Teboul. À suivre sur France Inter, Zoé Varier et sa journée particulière.